Bonjour et bienvenue, nous allons tenter de faire une émission comme on peut. Visiblement, nous avons des gros problèmes de son.
Éphémère est une radio libre, sans pub et indépendante, fondée à Toulouse en 1981. Notre mission, vous faire partager nos passions, nos coups de cœur et ce qui va vraiment faire bouger votre monde.
Ça vit dans vos oreilles avec, pour commencer maintenant, le supplément week-end avec l'actu BD, ciné, DVD, TV, suivi de ça c'est du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires de l'infirmerie. Et ensuite, eh ben, on n'a pas les programmes, ça tombe bien, mais en tout cas nous sommes revenus. Et si vous avez un son vraiment de merde, on est vraiment désolé, mais pour nous ça va être assez difficile pour avoir un son correct. Voilà, nous on s'entend absolument pas. Donc voilà, on va faire comme on peut.
je devrais être un peu plus audible en introduction. Young Disciples, Apparently Nothing, le mix original d'ailleurs. Pour un numéro spécial d'été, puisque voilà quoi, on se la joue à la cool. Et puis voilà, donc j'ai complètement loupé mon conducteur d'entrée, donc je vais y aller. Bonjour Thomas.
Salut Xavier, mais ce n'est pas ta faute, c'était la faute à
Windows. Bonjour du sport.
Bonjour.
Pas exactement Windows, il a fallu recalibrer tout le système, il y a eu l'ordi qui a planté, les MD à remettre d'équerre et tout. On est arrivé, le studio était clean, était propre. Et j'arrive... Le studio semblait impeccable et pourtant là, ben alors on a tout eu. Ce qui m'amène, mes chers amis, après 4 semaines d'absence, nous voici de retour. Et donc, je ne peux dire qu'une chose, les studios ont été refaits à neuf, du moins seulement la déco, faut quand même pas pousser.
Ouais, ouais.
C'est un peu moins encombré à l'image, hein, si vous nous recevez par la couleur. Nous avons rénové complètement le site internet de la radio, de l'émission. Voilà, vous pouvez y accéder en cherchant www.radio-fmr.net et vous cherchez la partie supplément week-end et là vous allez voir, c'est tout beau, c'est tout propre et bientôt ce soir il y aura les nouveaux logos en plus de l'émission. Et pourtant malgré tout c'est une catastrophe, on en est à une quatrième saison où on va subir la Coupe du Monde de rugby, le dernier tome de 13, le cœur à ses raisons sur M6, et je crois savoir comment va s'appeler cette quatrième saison. La malédiction. Bon, c'est une idée comme ça, ok. Ouais, il y a eu le retour, il y a eu la vengeance, ça c'était la troisième saison, donc voilà. Ça...
Ah bah oui.
Oui, je sais, c'était bon. Enfin bon, ceci dit, nous avons une émission qui est extrêmement chargée aujourd'hui puisque nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 BD à chroniquer. Nous avons 3 films, s'il vous plaît. Nous avons 4 quiz. Non, il y en a 2 plus 1 top 5. Il y a le Festival d'Eos qui a lieu ce week-end, donc à partir de demain, c'est dans le Gers et c'est l'une des dernières fêtes BD vraiment intéressante parce que les auteurs sont accessibles, sympas et tout ce que vous voulez. Sauf que cette année, vous allez voir, il y a un intrus. Et je ne dirai par qui trop tôt pour faire durer un petit peu le suspense. Bref, il y a de quoi s'éclater. En attendant, Thomas, peux-tu s'il te plaît commencer avec la revue de presse ?
Oui, alors la revue de presse, eh bien, moi j'ai Magazine Cinéma qui est Score avec Matt Damon en couverture. Alors Score, c'est 4,50€, voilà, c'est le numéro de l'été juillet-août. Alors il est question dedans de la franchise Jason Bourne, puisqu'il y a une interview de Matt Damon et un dossier sur Jason Bourne, pourquoi Bourne c'est mieux que James Bond, tout ça, voilà.
Bourne, c'est mieux que James Bond?
Oui.
Alors rappelle-moi quel était le nom des films?
The Bourne Identity,
la mémoire dans la
Bourne
peau.
Supremacy,
oui,
et
la
Bourne
mémoire.
Ultimatum.
Ouais, la mémoire dans la peau. J'ai pourtant parlé de quelque chose tout à l'heure.
Oui,
qui a,
de 13, ouais.
Voilà, ça a lamentablement pompé quand même, il faut le savoir, sur la mémoire et dans la peau. Jean Vraham, il a pris la première partie du bouquin. Et,
du bouquin, ouais. Voilà. Oui, tout à fait.
Et d'ailleurs, après, il s'est fait chambrer dans le Lièvre de Mars à la fin du quatrième tome. Ils ont pris la seconde partie du bouquin. Voilà.
Il y a également un dossier sur Heroes. Pourquoi il faut pas, vous pouvez pas échapper à Heroes, à la représentation des personnages, tout ça, machin, pour dire oui, Heroes a tout cartonné aux États-Unis et puis voit que le parcours du créateur, tout ça, voilà.
Et surtout à cause de la musique du générique, ça a beaucoup cartonné aux États-Unis.
Voilà. Et il y a beaucoup d'interviews, Joe Kernan, Matt Groening, Johnny Ito, Brad Bird et Matt Damon aussi, donc voilà. Et
quand même, si vous.
Ah oui, au niveau interview, ça va. Et il y a aussi un dossier sur les films les plus attendus de l'année prochaine. Donc on a, avec des photos qui vont avec, évidemment. Alors on a...
Excuse-moi, c'est un top 5, là ?
Non, pas du tout. Ah, oui. C'est après le top 5. Alors on a Mesrine, le diptyque avec Vincent Cassel, réalisé par Jean-François Richer. On a Wall-E, le prochain Pixar. I Am Legend avec Will Smith, remake du film avec Charlton Heston, il me semble. Voilà. Alien vs Predator 2. Voilà. Je suis un cyborg, le nouveau film de Park Chan-wook. Chrysalis avec Dupontel, Sa Majesté Minor. Voilà, avec des centaures et José Garcia.
Je ne sais pas, mais Jean-Jacques Hano qui fait dans l'humoristique, j'ai un peu de mal.
Ben, oui. Il avait commencé par l'humoristique. Hein. La victoire en chantant, c'est assez rigolo quand même, quoi, au départ.
Bah, c'est retour à ses premières amours, alors.
Si tu veux mon avis,
il est temps pour lui que cela cesse.
Il y a également Cortex, le nouveau film de Nicolas Boukrieff, réalisateur du Convoyeur. Eastern Promise, donc c'est le nouveau Cronenberg avec toujours Viggo Mortensen. MR73, nouveau film d'Olivier Marchal après 36 Quai des Orfèvres. Dante 01, grosse tuerie annoncée de Marc Caro. Et Hitman, avec dans le rôle titre le méchant de Die Hard 4 dont on parlera tout à l'heure. Donc c'était score numéro juillet-août.
Du sport lui aussi, il y avait de la revue de presse, on va essayer de tout faire en une fois si c'est possible.
Ouais, bah moi je voulais mélanger parce qu'il y avait également le quiz, mais enfin on fera les quiz un peu plus tard. Alors tout d'abord, le comic box hors série qui vient de sortir, oh, c'est le numéro 1, hein, et c'est un spécial X-Men.
C'est pas la première fois que comic box fait un hors série, mais là ils l'ont appelé Extra Dièse 1, quoi, exprès. Donc,
Non, hors série c'est le premier, hein, de la nouvelle saison.
De la nouvelle saison,
De la nouvelle, hein.
Ah bon, j'ai eu peur.
Bah oui, quand même, attends. Alors, tout sur les X-Men, alors c'est vraiment très très complet. Avec bien entendu.
Avec une page de pub sur Heroes.
Ouais, non, mais attends. J'y viens. Alors, il y a des petits trucs, toujours les articles très très sympas, hein. C'est, très bien foutu. Les interviews de Chris Yost, qui est vraiment bien. Chris Yost, c'est le mec qui a développé X-Men Evolution pour le dessin animé. Oui. Hein, les dessins animés qu'on peut voir sur France 2, là. Hein,
France, sais, 3.
France 3.
Ça
2.
Passe le matin,
Ouais, France 3, ouais. C'est ça, ouais.
Bah, je sais pas, il y a tout
le dimanche
Spice
matin. Ouais, mais on va laisser tomber, quoi.
Ça n'a rien à voir.
Donc, X-Men Evolution et les New X-Men également. Il y a Billy Tan également qui est en ce moment sur les X-Men, mais version papier. Il y a également un interview de Tim Sale qui a également travaillé, hein, sur les comics Marvel. Tim Sale qui est le dessinateur de...
Heroes.
Ah voilà, bon, vous le
et
savez.
Moi, j'aime pas c'est du bien, tout ces dessins bien. D'ailleurs qu'il a fait pour Heroes.
Ben ça c'est une question de goût, hein. Y a pas de problème, quoi. Et y a également bien entendu des petits articles très intéressants. Alors tout d'abord ça commence par l'univers X, hein, à savoir un historique un petit peu des X-Men. Ensuite il y a un truc qui est très marrant, quoi. C'est X-Men pour les nuls. Alors c'est sous forme de plan de métro. Alors, t'as le plan de métro et pour savoir quelles sont les différentes déclinaisons entre les Uncanny, les New X-Men, les Astonishing, et tous les ceux qui sont venus, les originels, ceux qui sont greffés par dessus, enfin tout. Bon, c'est très complexe, hein, faut vraiment. C'est comme le plan du métro de Paris. Hein.
Et ceux de la Terre bis.
Non mais c'est un gag à la Technic Arts, ça, quand même. Hein. C'est.
Ouais, mais c'est pas Technic Arts, c'est Comic Box. Hein.
Donc oula, je crois que je vais le photocopier parce que moi depuis 15 ans que je chronique du X-Men, j'ai du mal des fois.
Ouais, bah tu peux, hein, y a pas de problème. Y a également 11 pages sur Heroes, bien entendu, hein, c'est logique. Y a également, bah, toujours comme d'habitude, la BD inédite, et là c'est quand même 36 pages. D'habitude, on a droit à 20-22 pages de BD inédite, là 36 pages de X-Men Deadly Genesis. Donc ouais, pas mal, dessiné par, si je vous le trouve vite fait là... Non, je pourrais pas, quoi. Et il y a également, alors là c'est le premier article que j'ai lu, et c'est peut-être l'un des plus intéressants. Il est à la fin du bouquin. Ça s'appelle Le Crépuscule des Mutants, et en fait, eh bien, ça raconte un petit peu l'historique dans la littérature de ce qu'on appelle les mutants. Et donc ça commence il y a vachement longtemps avec Jonathan Swift au 18e siècle. On y parle de Nietzsche et de plein d'écrivains comme ça avant qu'on y parle des vrais X-Men. Donc c'est un article qui fait 2 pages, 3 pages, qui est vraiment très très intéressant, avec également les déclinaisons de mutants qu'il y a eu avant que les X-Men soient créés. Bien entendu, dans les comics, il y avait déjà des créatures qui étaient considérées comme étant mutantes. Hein, tout ça dans cet excellent article. Il y en a plein d'autres, hein, de toute façon, quoi. Hein, avec le truc habituel, hein, de toute façon, de comic box, hein, la présentation habituelle, de toute façon, le rythme habituel. Il y a également le Technic Art hors série TV qui vient de sortir. Alors tu me paumes pas les signets parce que j'en ai encore besoin plus tard. Et là,
cherche pas les réponses, Thomas.
Là,
j'ai regardé le prix.
Le prix, c'est assez cher, hein, quand même. Hein. Ouais. C'est 8,50, hein, alors que le comic box, d'habitude, il doit faire dans les 6 euros. Là, bon, bah, oui, il est plus complet. Hein. Il y a 132 pages. Il est, ça va, c'est fourni. Hein. Et il y a vraiment pas beaucoup de pages de pub, hein, de toute façon, quoi. C'est ça qui est intéressant. Ensuite, dans le Technic Art hors série télé, vachement bien. Alors là, j'ai trouvé vachement bien. Bah, Technic Art, de temps en temps, il y a des numéros qui sont complètement nuls. C'est de la merde, quoi. Faut le dire, franchement, quoi. Il y a d'autres numéros plus intéressants, quoi. Mais là, vraiment, ils ont fait très fort. Et on voit qu'ils s'intéressent au sujet et qu'ils aiment bien, quoi. Il y a, ça se sent quand tu lis les différents articles, la manière dont c'est amené. La battle, bon, c'est comme un numéro traditionnel, hein, c'est-à-dire, s'imaginer de la même façon. Alors, la battle, c'est-à-dire l'interview croisée entre deux personnages qui ouvrent traditionnellement chaque numéro de Technicart, c'est Dick Wolf contre Tim Kring. Bon, c'est pas n'importe quoi, hein, ça va, quoi. Ensuite, dans la culture clash, des trucs très intéressants, bon, il y a les trucs rigolos, quoi, dans le style, les génériques français nous foutent-ils la honte, on en parlait juste avant, hein, et il y a également, tu veux devenir le jardinier d'Eva Longoria. Et puis, plus sérieusement, il y a une double page qui s'appelle « La série noire est-elle l'avenir du roman noir ?» avec la vie d'écrivains de séries noires. Alors, il y a juste un avis qui m'a vachement botté, c'est celui de James Ellroy à propos de je sais plus quelle série, dans lequel il déclare « Ouais, moi je regarde la télé, mais juste pour les matchs de boxe et tout, je reste rien à foutre, quoi, bon. » Et également l'avis de Denis Lehan, ça c'est plus intéressant. Enfin bon, il y a également une page sur Anne Richard. Alors là, c'est pas mal. Parlez-moi d'un autre magazine de séries télé spécialisé dans les séries télé qui a déjà fait un article sur Anne Richard. Eh bien non, personne, désolé. C'est dommage parce que elle est quand même le personnage principal du Boulevard de Palais, hein, cette série qu'on peut voir sur France 2 dans le cadre des Vendredis Polars. Et c'est vraiment l'une des meilleures séries qui tient encore la route. Toutes les autres se sont effondrées. PJ, Avocat et Associés, La Crime, tout ça. Ça a pas tenu longtemps. Alors que là, vraiment, depuis le début, et ça continue, hein, avec Jean-François Balmer, magnifique, hein, en policier alcoolique et tout, bourré à 9h du mat. Vas-y. Mais vraiment très très bien. Donc Anne Richard, hein, qui joue vraiment très bien. Moi j'aime bien, quoi, de toute façon, quoi. Et en plus elle est pas bombastique, quoi, comme les nanas que tu peux voir sur les séries TF1 et tout ça, quoi. Hein, vraiment normal, nature et tout, des petits seins et tout, un petit cul. Enfin, elle joue pas là-dessus, quoi, tu vois, quoi. Elle joue sur autre chose, quoi. Et on apprend également que c'est pas la fille de Pierre Richard, ni de Jean Richard. Ensuite, les grosses parties dans le Technicart, c'est bien entendu, on le voit sur la couverture, un gros article, 20 pages sur les Sopranos, parce que les Sopranos, bientôt en France, on va pouvoir voir les derniers épisodes de la saison 6, à savoir la fin de cette saga absolument magnifique, hein, un des sommets de la télé dans le monde. Et également dans les pages magazines, pas mal de petits articles, un article sur Jerry Seinfeld. Qu'est-ce qu'il fout maintenant, il n'y a plus de Seinfeld, la série s'est achevée depuis pas mal de temps, depuis 8 ans au moins, quoi. Et bon, qu'est-ce qu'il fout, rien, il glande. Il est assez riche pour pouvoir rien foutre, quoi. Et également un article très intéressant sur qui s'appelle Partie de cache-cache, les séries US sont-elles le nouveau tiroir caisse des chaînes françaises. Et avec bien entendu tous les autres rubriques habituelles. Bref, un numéro fortement conseillé, un peu plus cher que le Technicart habituel, car celui-là fait quand même 4,50€, mais quand même très très complet. Avec, j'avais oublié, avec le guide complet. Et là, c'est pas mal, hein, parce que c'est vraiment c'est du contre-courant, avec un gros article également sur Lost, ainsi que le guide complet des épisodes de la saison 3.
Donc, oh non, pour spoiler, merde.
Je t'avais dit que
ça spoil pas tellement.
Je t'avais dit
en fait,
que jeudi,
hein,
on aurait dû enregistrer un jingle spoiler. Tu vois.
Ouais, mais ça ne spoil quand même pas tant que ça, quoi. Enfin bon, on apprend des choses pas mal, assez rigolotes, quoi. C'est pas mal, quoi. Bon, tout ça dans ce hors-série de Technicart, série TV.
Merci du sport, j'ai eu le temps de récupérer, puisque je les avais enfermés dans la boîte qui est sous la table de mixage, mes notes pour l'émission d'aujourd'hui, en essayant de redémarrer l'ordinateur. Et ben donc, je tiens à signaler que demain aura lieu, comme tous les premiers week-ends d'août depuis maintenant pratiquement 15 ans, un événement qui est extrêmement intéressant parce que il a lieu dans la région, il a lieu de manière fort sympathique dans un tout petit village. Et Oz, c'est à côté de Candon, vous prenez la National 124, vous passez Auch, et c'est à mi-chemin entre Auch et Mont-de-Marsan, pas très loin du circuit Paul Ricard, pour que du sport se souvienne.
Oh, c'est la capitale de l'Armagnac, moi je sais très bien où c'est, Oz.
Voilà, et c'est ça qui est intéressant, c'est que il y a plein d'auteurs qui viennent, qui sont logés parmi les gens, qui sont là depuis 3 jours pour certains. Surtout quand ils sont belges, ils ont fait la tournée de toutes les caves, ce qui fait que vous les voyez, les Belges. Ils sont rougeaux. Moi, j'ai quand même eu à Edika qui a tenté de négocier une collection du Psychopathe illustré contre ma voiture, et plein d'autres plaisanteries de ce genre. C'est vraiment très sympa, ça vaut le coup. En plus, il y a les randonnées à faire, il y a la piscine au camping municipal, l'entrée est gratuite, et ils se limitent dans le nombre de personnes qui viennent. Ils essaient de pas en faire venir plus de 40. Les personnes en question sont en accès libre. Alors aujourd'hui, c'est un vide-grenier qui a lieu dans les rues des Oz. Donc vide-grenier des commerçants, des habitants et tout ça. C'est pas forcément en rapport avec la bande dessinée. Mais par contre, demain, de 10h à 13h, puis de 15h à 19h, il y aura donc la séance de dédicace, sachant que à midi, ils offrent l'apéro aux visiteurs. Et en plus, l'Armagnac est vraiment de très très bonne qualité. On peut discuter avec les producteurs. Il y a des fanzinistes qui viennent, dont on peut découvrir les productions. On en a reçu beaucoup d'ailleurs dans cette émission qu'on avait rencontré là-bas. Pas dans cette émission, dans Indigeste, je m'excuse. Hein, c'est une vieille émission. Vous pouvez revoir dans le site internet du supplément week-end. Et parmi les auteurs présents, il y a des auteurs qui vivent sur place, comme par exemple HD, l'auteur de CRSD13, Doc Veto et des nouveaux Lucky Luke, Azara qui fait Taka Takata, Roger Wittem Locher qui fait Nabucodinosaur et fait actuellement Achille Talon. Et accessoirement, cette année en invité, on trouvera Francis Bergès, le dessinateur des Bug Dany et des Beagles. Beagles, ça c'est des trucs anglais des années 20, ça. Béric qui fait Sylvain et Sylvette, Olivier Berlion le cadet qui dessine le cadet des Soupetards et Salmioche, Frédéric Berzian qui lui est de la région donc il fait Adam Sarlet, Ne touche à rien, Archipel, c'est aux éditions PLG, et actuellement Donjon Monster s'il vous plaît, Olivier Boiscommun qui fait du fantastique, Ange, Troll, Halloween, Bruno qui fait Inner City Blues, on en a parlé dans cette émission, Biotop, on en a parlé en début d'année, on l'a foutu dans notre sélection de l'été, Nemo et Michel Swing, et je crois que du sport t'as beaucoup aimé Michel Swing, Max Cavan, je sais plus ce qu'il fait lui, Max Cavan, je crois qu'il est dessinateur, oui, hein. Francis Carin qui fait Victor Sacqueville et Lefranc, Louis-Michel Carpentier du côté de chez Poche, c'est une histoire de beuverie, c'est chez Dupuis, Castaza, les contes de haute terre, les teigneux, Raoul Covin qui est le scénariste des Tuniques Bleues, Cédric, les psys, enfin c'est un très grand scénariste de Spirou, Quadradro, Norma, Parker et Badger, Duvivier qui dessine Mauvaise Graine et les Chardes, Ernst qui vit dans la région qui s'occupe d'ailleurs du site internet du Festival des Oz et qui dessine les Zappers dans Spirou, Froggy, Laurent Gérard, je crois qu'il est scénariste, Patrick Goulesque qui est dessinateur entre autres chez Milan Édition, Franck Giroux qui normalement vit sur Toulouse mais il a déménagé pas mal dans sa vie, il est allé vivre d'ailleurs au Brésil au bout d'un moment, qui a dessiné Azraïen, le Décalogue, Louis Laguigne, Quintet et un bouquin sur le Tour de France, je sais pas si tu t'en souviens du sport, on en a parlé l'an dernier.
C'est pas l'aigle sans orteil?
Oui, non. Exact, gagné.
Giroud, il a pas scénarisé cet album, si?
Si, si, il a scénarisé, il l'a dessiné.
Je crois pas, non? Si, t'es sûr?
Ah oui.
Bon, d'accord.
Oui. Emmanuel Lepage qui fait Neve, qui a dessiné la série Neve, l'envoyé qui fait actuellement America et Muchacho, Philippe Legui, Bruno Lotte, Maël, Pierre Macchiot qui a dessiné La balade du bout du monde, Jérôme K, Jérôme Bloch, Elsa et actuellement ADN. Jean-Claude Mézières, s'il vous plaît, je pense que c'est beaucoup plus intéressant que Laurent Gérard de savoir qui est le dessinateur de Valérian et Laureline. Si vous avez le poster de Playboy où Laureline est à poil, c'est le moment ou jamais. Si vous l'avez, hein.
Apparemment, ce poster t'a vachement marqué parce que c'est pas la première fois que t'en parles.
Ouais, je sais. Delacroix, Marc Nguessan qui lui aussi, il vit à Toulouse, donc il fait Aberzen, Petit Dôme, et il a dessiné récemment Arthur et les Mini-Mois. Smoujda qui fait le bordel des muses, Vincent et Van Gogh et puis Zanapa. Donc voilà, tous ces auteurs seront présents demain à EOS, c'est dans le Gers. Et donc l'entrée est gratuite, c'est l'occasion d'y aller parce que vraiment c'est un moment vraiment agréable à découvrir et ça se passe très bien d'ailleurs. Hein. Franchement, on s'éclate beaucoup. Thomas, toi, t'y es jamais allé, je crois, mais moi je me souviens chaque fois qu'on y est allé, les auteurs sont super accessibles. On a beaucoup déconné avec eux. À une époque, il y avait toute l'équipe de Spirou, enfin les dessinateurs du Petit Spirou, Tom et Jean, du Spirou normal. Il y avait Midam qui faisait Kid Paddle à l'époque, dont le premier tome venait à peine de sortir. Tous ces gens-là sont en général super accessibles. Il y a vraiment une très très bonne ambiance. Jusqu'à il y a 5 ans, ils le faisaient en plein air. Maintenant, ils le font dans la halle principale. Et puis, il y a tous les fanzinistes. Il y a des bouquinistes aussi. Donc, ça vaut vraiment le coup. C'est une très bonne sortie. Et à la limite, vous pouvez vous faire un pique-nique entre midi et 2 si vous voulez pas forcément rester pour la partie dégustation. Et en revenant, vous faire une promenade et puis pique-niquer le soir. C'est l'occasion. Il fait très beau normalement demain, suivant la météo. Voilà.
Ouais, moi je me rappelle. Tu parlais de Beagles avant. Hein. Moi je me rappelle des Beagles hein, qui paraissaient dans les
romans,
dans les petits romans.
Les fascicules, oui.
Ouais, les petits fascicules là, dans les années 50-60 là, c'était comme les Hakim, Zambla, Blake Le Roc.
C'est un classique anglais. Ouais, c'est un classique anglais de l'aviation.
C'est un pilote de la Royal Air Force.
Ouais, exactement. Et dont la BD a été éditée en France par Didier Passamonique. Oui, Thomas.
Tant qu'on est au festival, on va parler d'un festival dont FMR vous propose de gagner des invitations. Il s'agit du 6e festival de courts-métrages en plein air, ça s'appelle Ciné Sans Filet, qui a lieu le 10, 11 et 12 août 2007 à Allées-les-Bains, au Parc des Termes. Alors, on peut vous faire gagner deux invitations, chacune pour deux personnes. Donc il suffit d'appeler la radio 0561 580 580. C'est un festival de courts-métrages avec une projection de 80 films courts en 3 jours sur deux écrans extérieurs et intérieurs en simultané. Donc il y a pas mal de trucs à voir. Il y a aussi une sélection des meilleurs courts-métrages primés dans les 5 éditions précédentes.
Voilà, donc n'hésitez pas à appeler, c'est de suite au 0561 580 580 pour gagner des places. Et donc ça se passe.
Ça se passe à Allées-les-Bains les 10, 11 et 12 août.
C'est dans quel département?
C'est dans le 11.
C'est dans l'Aveyron.
Voilà.
Voilà. Midi 26, on n'a pas entamé les sorties bande dessinée. Vous écoutez le supplément week-end. C'est le retour de vacances, c'est le warm-up pour la 4ème saison. Le warm-up forcément parce qu'on est en plein été, il fait beau, profitez-en, dorez-vous, prenez vos baladeurs et votre auto-bronzant et un bouquin pour vous protéger de la tête. Les sorties bande dessinée avec une adaptation des romans de Gérard de Villiers par Martin Eden et Andrea Muti au dessin. SAS, le tome 3 vient donc de sortir chez Glénat, ça s'appelle Mission Cuba. Ce qui est intéressant dans la vie d'espion, c'est que on voyage de par le monde et qu'on apprend de sympathiques expressions argotiques comme vamos a Templar. Enfin plus exactement, vamos a Templar. La charmante demoiselle qui vous dit ça souhaiterait vous faire une fouille corporelle approfondie dans un lieu clos et en sautant vite sur la case romantique, c'est-à-dire un alcool, un bisou, la main au corones et une pipe. Au pays du cigare roulé par des femmes, les fumeuses sont bien évidemment très entreprenantes. Mais ça, c'est toute la poésie de l'œuvre littéraire de Gérard de Villiers, la trépidante vie de bureau de son Altesse Sérénissime, le prince Malco Linge, intérimaire, à la CIA, ou plus exactement intermittent du spectacle, le voici envoyé à Cuba afin de préparer l'après Fidel Castro, le leader Maximo étant hospitalisé pour attaque cérébrale et peut-être temps de refaire basculer l'île dans l'économie de marché. Hélas, les services secrets cubains se montrent terriblement efficaces dans la lutte contre les agents étrangers. Par contre, pour ce qui est de la répression, de la prostitution, Bon, allez, j'avoue, c'est pas pour les qualités artistiques que j'ai chroniqué cette adaptation. Le scénario et le dessin s'enfilent en quatrième vitesse, sans trop y prêter attention, comme pour n'importe quel film de cul, quoi. Après tout, vous connaissez les romans SAS. SAS, donc, en bande dessinée. Le tome 3 s'appelle Mission Cuba, de Gérard de Villiers, adapté par Martin Eden et scénarisé par Andrea Muti et c'est chez Glénat. Et Et tant qu'on y est, on va rester dans le cigare.
Oui, je sais, c'était
nul. Oh, oh, oh.
Pierre Boisserie et Eric Stalner en scénario. Dessin de Eric Stalner et Eric Lambert. Flore de Luna. Le tome 1 s'appelle Santa Maria Cristina. C'est toujours chez Glénat dans la collection Graphica quand même. Hein, on va pas pousser. C'est peut-être la première bande dessinée que je lise avec en paraf la mention « Fumer nuit gravement à la santé ». Et pour cause, Charles Potter est mort, le dernier grand nabab du cigare, est décédé des suites d'une très courte maladie par un revolver à bout portant dans son lit. En contemplant son cadavre, son secrétaire particulier s'offre un magnifique Flore de Luna, car justement il comptait tuer son patron. Mais visiblement quelqu'un était plus rapide que lui. Que voulez-vous ? L'ervage du tabagisme. N'en vend une grande perte pour l'industrie pharmaceutique, l'aspirant assassin déguste son barreau de chaise en se remémorant l'histoire de cette saga familiale. Ou comment, 200 ans plus tôt, un aventurier profitant de la fin du monopole du roi d'Espagne sur le tabac a embarqué sur un navire négrier pour rejoindre la colonie de la Havane. Début 19e siècle, cette opération est un peu périlleuse depuis que ces pisse-froids d'anglais considèrent l'esclavagisme comme hors la loi. Fulminant contre la mauvaise qualité des cigarrillos espagnols, Diego Castellano va devoir sauver sa croisière d'une révolte, car une épidémie de fièvre jaune s'est déclarée à bord. Les marins sont décidés à abandonner en plein océan les esclaves. Les reconstitutions graphiques sont très précises, le scénario à double niveau semble tenir la route, mais le problème c'est que nous sommes sur deux époques, et que donc les deux intrigues, aussi bien celle qui a lieu actuellement et celle qui a lieu donc au début du 19e, mettent forcément du temps à démarrer. Car Flore de Luna reprend le principe des Stanford Maîtres de l'Orge, une autre série à succès de la même collection, scénarisée par Jean Vaham, scénariste de Largo Winch et de 13, et dessinée par Vallès. Cette série dynastique raconte une famille régnante sur une entreprise de bière, fut même adaptée en série télé de luxe par France 2. Peut-être que Glénat veut justement renouer avec ce succès. Pierre Boisserie, Eric Stalner et Eric Lambert, Flore de Luna, le tome 1 s'appelle Santa Maria Cristina, c'est dans la collection Graphica chez Glénat, et en simultané est sorti sur un scénario de Agnès et Jean-Claude Barthol et un dessin de Bernard Kohl à Diamant. Le tome 1 s'appelle Charles Van Berg, c'est dans la collection Investigation chez Glénat. Charles Junior Van Berg est l'héritier du colossal empire Van Berg Mining Corporation, une entreprise tentaculaire, une entreprise tentaculaire qui a réussi à créer un quasi-monopole sur l'industrie diamantaire où il décide de manipuler les cours du diamant comme ils l'entendent. Alors qu'il visite une nouvelle mine au Canada, il échappe de peu à un accident, reçoit la visite d'individus peu recommandables et suite à des problèmes d'avion, atterrit aux États-Unis où il se fait immédiatement arrêter car s'il a hérité de cette multinationale, il en a aussi acquis les condamnations par coutumasse. Le père de Charles Junior Van Berg, Charles Van Berg, est allé par toutes les compromissions possibles pour faire survivre son empire à la Seconde Guerre mondiale. L'aurait, paraît-il, fourni des industries allemandes en diamants industriels. Et lui-même serait plus ou moins compromis dans un trafic de diamants de guerre, comme le lecteur l'apprend dans de multiples sous-chapitres, et c'est là que le bât blesse. Le sujet est hyper passionnant. Le nombre de clichés, le manque de documentation sérieuse du dessinateur, qui va jusqu'à dessiner un radar météo sur un yacht dans les années 30, c'est un joli plantus ça, tout cela donne une impression de très mauvaise maîtrise éditoriale. De la part des époux Barthol, un tel massacre étonne, parce que je rappelle quand même qu'ils sont journalistes, spécialisés dans la recherche documentaire, et en fait, voilà quoi, ils se plantent relativement rarement. Seulement, l'éditeur a lancé en simultané le projet Flore de Luna, avec la même ambition, et les deux séries étaient soutenues par un concours commun, diamant ou cigare, c'est-à-dire tu gagnes soit un voyage à la Havane, soit un vrai diamant. Le concours est clos, hein, je tiens à le signaler, on ne peut s'empêcher d'en faire la comparaison. Et la comparaison avec l'autre série, avec Flore de Luna, n'est pas à l'honneur de diamant, d'où son édition dans une collection moins prestigieuse. Il en fallait peu pour que la lecture soit passionnante comme un diamant. Loupé, ce n'est qu'un bout de verre. Agnès et Jean-Claude Barthol, Bertrand Coll au dessin. Diamant, le premier tome s'appelle Charles Van Berg, c'est dans la collection Investigation chez Glénat, je ne vous le recommande pas trop. Ou alors vous avez aimé les tout derniers Largo Winch. Les micros sont verts, hein, Thomas. Tu peux le dire. Surtout après SAS.
Non, mais j'étais déçu parce que je trouvais bizarre aussi que dans une BD française, il n'y ait pas la. Enfin, une BD française dite réaliste, il n'y ait pas la fameuse séquence de femme à poil dedans. Donc, elle y est, c'est bien. J'ai dû.
C'est bien. Thomas est content, il y a le quota.
Voilà, j'ai dû lire en diagonale deux fois parce que la première fois, j'avais pas vu. Tout est en place, ça va.
Bah alors tu peux chercher la scène de fille à poil dans Orbital, le deuxième tome de la série de Sylvain Runberg au scénario et Serge Pellet au dessin, vient d'arriver dans la collection Repérage Dupuis, enfin elle est arrivée le mois dernier, et s'appelle Rupture, le binôme d'agents de l'ODI, une espèce d'ONU intergalactique, était en très mauvaise posture à la fin du premier tome Cicatrice. L'humain Caleb avait déjà fort à faire pour remonter la réputation des êtres humains et faire équipe en faisant équipe avec Mesoke, mais leur première mission, entre des pionniers humains isolationnistes et des indigènes javelodes, est parsemée de sabotage. Bien des gens, humains ou non, seraient ravis que cette mission échoue lamentablement. Entouré par une horde de Steelvuls, des prédateurs intelligents et agissant en troupe, Caleb et Mesoke vont faire leur possible pour sauver la colonie de l'effroyable danger. Mais leurs actes de bravoure ne les rend pas pour autant plus sympathiques auprès des humains, dont ils viennent pourtant de sauver la peau. À moins qu'en fait, ceux qui aimeraient quitter cet enfer n'osent exprimer leur voix par crainte de représailles. La conclusion sera mythique, Miraisin. Une réussite diplomatique ne signifie pas forcément une victoire totale. Alors comment en apprécier la conclusion, sinon en partageant son goût amer avec les survivants? Un univers extrêmement riche, où les auteurs ont émaillé d'emprunts intelligents, un graphisme très agréable et surtout une intrigue politique complexe, rythmée par une action très présente dans cette seconde partie. Aliens 2 est immédiatement présent à l'esprit, mais le mélange des inspirations des auteurs en donne une histoire totalement originale, la lecture est plutôt palpitante. Laissée transformer, la série Orbital est à coup sûr la révélation science-fiction que nous attendions. Le deuxième tome s'appelle Rupture, Sylvain Runberg et Serge Pellet l'ont donc produite et c'est dans la collection Repérage chez Dupuis. Peut-être que Thomas a un truc à dire là-dessus.
Non. Non, mais ça fait très longtemps que je l'ai lu, alors je m'en souviens pas du tout du 1, donc je sais. Faudra que je te le remprunte.
D'accord, et ben ça va être à Thomas pour Death Note. Je t'en prie.
Ben avant, je pense qu'il y a une petite news aujourd'hui, puisque Xavier, à l'âge de Jésus, il a 33 ans.
Attends, excuse-moi, je vais chercher un autre fond, ok.
Donc,
non, parce que moi, il n'y a pas que moi quand même. Hein. Donc vas-y.
Donc c'est le moment de t'offrir le petit cadeau qui va avec les 33 ans.
Ah bah ça tombe mal parce que du sport, lui, il a quand même l'âge de Spoutnik. Donc c'est le moment de lui offrir le cadeau. Donc dommage, il n'y a pas d'appareil photo. Mais en fait, on s'échange diplomatiquement les cadeaux. Alors ça sent la galette de nylon. Donc voilà, hop. Il y a les photos, zou. Chers auditeurs, on est en direct. On va voir ce qu'il y a. Chacun de notre côté.
Ah, il faut ouvrir.
Ah ouais.
J'ai pensé à toi.
8 scènes inédites extra corrosives. Oh.
Ouais.
Tovarich. Bisouche. Donc le DVD de Borat, il est arrivé quand?
Je ne sais pas.
Ah ouais, je sens qu'on va...
Non, il vient de sortir.
Il vient de sortir. Je crois qu'on va bien s'éclater. Ah merde, je crois qu'il va pas passer dans le lecteur. Il est protégé contre la copie. Bon, on va essayer. Oui, parce que si jamais vous avez le logo avec un disque interdit et un fond orange avec marqué ce disque, ce DVD est protégé par un système anti-copie, vous avez une chance sur deux pour que ça passe dans les lecteurs. Si le lecteur il accepte les DivX, il y a toutes les chances pour que
et
ça passe pas.
Tu peux lire le petit encart en blanc à droite qui te dit les bonus qu'il y a dedans.
Alors, Borat à la fourrière, Borat se fait masser, parodie en direct de Malibu, Borat se déchaîne au supermarché, Borat joue au docteur, Borat clash avec police, Borat monte la vache rodéo comme vous disiez, direct live du Kazakhstan. Et c'est dommage, il n'y a pas eu les bonus qu'ils ont fait pour MTV. Parce que ceux-là, ils étaient MTV Kazakhstan, ils étaient quand même... Enfin, ça a valu MTV une interdiction de diffuser là-bas, parce que c'était assez énorme. C'est Sacha Baron Cohen, donc celui qui fait Ali J, qui a créé donc ce personnage complètement fou furieux, en road movie complètement déjanté. Ben, merci beaucoup, Thomas.
Mais
merci
rien.
Beaucoup. Du sport ?
Merci, merci, hein, merci.
Alors,
merci.
Du sport, qu'est-ce que tu as eu ?
Eh bien, un des trucs monstrueux hein, de la Marvel, le Civil War...
C'est l'événement qui éditorial qui secoue tout le tout leur univers et toute leur publication.
Voilà, ouais. C'est justement quoi. Ça va me permettre justement de pouvoir avoir l'air plus intelligent quand je lis les interviews des différents dessinateurs parce que. Ils y font tout le temps allusion.
Ah mais là ils ont un très très bon service commercial pour les motiver et puis c'est vrai qu'ils s'y sont donnés à fond. Hein. Civil War, on vous fait le résumé, c'est les super-héros se latent entre eux parce que il y en a qui ont décidé de prendre le parti du gouvernement. Je vous laisse deviner quel gouvernement.
Et le pendant sur chez les DC c'est Infinite Crisis, c'est ça ?
Infinite Crisis, un peu parce que ça dure depuis un certain temps et ça n'a pas autant ça n'a pas été autant la vague qu'avec Marvel hein, quand même. Donc Thomas, je te remets un autre fond Zou et on va y
c'est
aller
vrai, il faut continuer l'émission c'est vrai.
Ah oui quand même, allons-y.
Alors Death Note est une série de mangas scénarisée par Tsugami Oba et dessinée par Takeshi Obata et c'est publié chez Dark Kana. Et donc on en est au quatrième tome qui vient de sortir et ça raconte l'histoire du dieu de la mort Ryuk qui se fait grave chier dans l'autre monde. Alors chaque dieu de la mort a un Death Note. Ryuk décide donc de s'amuser en laissant son Death Note au premier venu dans le monde des humains. Donc il le laisse par terre et puis il attend que le premier qui arrive s'en empare. Qu'est-ce que c'est un Death Note ? Le Death Note est un cahier particulier. Il suffit d'écrire le nom de quelqu'un dont on connaît le visage pour qu'il meure à l'instant. Enfin, à l'instant, ou alors on peut choisir l'heure de la mort et la façon de mourir, etc. Si on n'écrit pas la façon de mourir, il meurt d'une crise cardiaque. L'humain qui va tomber sur ce cahier, c'est pas n'importe qui, c'est Light Yagami, lycéen super intelligent, premier à tous les concours, champion de tennis intercollège, 3 années de suite, toutes les filles sont à ses pieds parce qu'il est plutôt beau gosse, bon voilà le mec parfait quoi. Et en fait il va utiliser le Death Note pour éliminer les plus grands criminels. Tu dis ça part peut-être d'une intention un peu expéditive mais à la limite pour certains louable. De son côté,
vive la peine de mort. Hein.
Interpol, ils se disent tiens, il y a beaucoup de criminels qui de la liste noire qui disparaissent tous en avec des crises cardiaques, donc on va mandater notre meilleur enquêteur, le plus grand enquêteur du monde, L, dont on ne connaît que l'initiale.
Inspecteur Clouseau ?
Non, c'est L tout court et on ne connaît jamais son visage, on ne connaît pas son nom. Et l'énigmatique L va enquêter, il est aussi intelligent que Light. Et les deux hommes vont finir par se rencontrer et peut-être devenir amis. Sauf que elle, eh ben, il soupçonne fortement Light d'être le mystérieux tueur Kira. Il se fait appeler Kira, mais il a pas de preuves et puis il commence à le suspecter. Il a 5% de chance d'être Kira, donc c'est un gros jeu du chat et de la souris qui va commencer. Et justement, dans ce jeu d'échecs grandeur nature, eh ben, tout est affaire de stratégie. Il dit, tiens, je te laisse penser ça, mais ça veut dire que si tu penses que je vais agir comme ça, tu vas penser que je suis Kira et je veux pas que tu penses que je suis peut-être un tueur, donc je vais faire exprès de faire ça pour que tu penses ça, que, etc. Et dans ce tome 4, les choses se compliquent parce qu'il surgit Misa Amane en possession d'un deuxième Death Note. Parce qu'il y a plusieurs dieux de la mort et plusieurs Death Note. Et donc les crimes vont se perpétrer à plus grande échelle et donc la police va-t-elle croire que c'est l'œuvre d'un seul tueur ou va-t-elle comprendre le modus operandi de ces meurtres en série. Donc en fait cette série de mangas c'est un jeu d'échecs, mais genre les mecs ils réfléchissent tout le temps, chaque dialogue est pensé entre les deux mecs super intelligents. Je dis les deux sont character design mais vraiment super bien, parce qu'il y en a un qui est autant il est élancé et puis il est sûr de lui, il est je suis dans la lumière parce qu'il s'appelle Light et tout, alors que elle il est vraiment il met du temps à montrer son visage, il est dans l'obscurité, il est recroquevillé sur lui-même, il passe son temps qu'à bouffer et tout, et donc ça fait une opposition de style assez sympa entre les deux. Alors à un moment donné, comme il est suspecté, la police va mettre des caméras dans sa chambre. Mais comme lui il est un peu paranoïaque au début, il avait foutu un système pour voir si on était entré dans sa chambre à son insu. Donc il demande à son dieu de la mort de regarder les caméras s'il y en a et tout. Puis il dit ouais, en fait c'est trop fait de caméras, il y a plein de micros et tout. Donc l'autre il va faire un jeu du chat et la souris. Tiens, je vais en profiter, je suis observé, donc je vais en faire leur donner la preuve que c'est pas moi le tueur. Tout en prenant des chips dans un paquet, puis mettant les noms des futurs Maccabées. Regardez, il y a des Maccabées pendant que je fais rien, donc c'est pas moi. Donc c'est que ça. Et en plus, c'est une série qui se déroule sur 12 tomes. Donc déjà au quatrième, tu te dis ils peuvent pas aller plus loin parce que ils ont exploré tout ce qui pouvait être exploré. Non, parce qu'il y a, je pense qu'il y a plusieurs Death Note et puis il y a d'autres gens intelligents que les deux. Donc c'est vraiment super maîtrisé. Les dessins sont vraiment très très fins et chaque personnage n'est pas, il y en a aucun qui est brouillon. On peut s'identifier à tous les personnages. On peut s'identifier aux enquêteurs qui enquêtent sur elle, sur Light. Et tu te dis au début tu peux t'identifier un peu à lui parce que c'est un lycéen, il est beau gosse et tout, ouais. Et finalement non, tu peux pas, parce que c'est quand même un psychopathe. Donc voilà, Death Note tome 4, édité chez Darkana, scénarisé par Tsugami Oba et dessiné par Takeshi Obata. Et c'est...
Mais qui sont pas d'ailleurs des débutants d'ailleurs dans le lot, et il y a une série de dessins animés qui devrait
être. Oui, voilà, c'est la grosse franchise du moment au Japon, enfin du moment, ça fait quelques temps déjà. Il y a une série d'animation de 37 épisodes qui a été réalisée, qui est très 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 fidèle à la série de manga et qui a une vraie fin. Il y a eu deux films live aussi. Alors moi j'ai eu des échos parce que c'est notre cher ami Manu qui est venu plusieurs fois sur cette antenne qui nous en a parlé. Les films c'est japonais, donc c'est des japonais au visage un peu poupon, donc regarder la caméra avec le regard en dessous pour faire méchant, et puis je suis angélique pour faire gentil, et puis surtout que les mecs qui meurent, ils meurent à la japonaise. Voilà, donc ça décrédibilise un peu, et il faut savoir qu'il y a un remake qui est en préparation à Hollywood.
Ah oui, quand même.
Je pense transposer évident. À New York. Voilà, Death Note. Hein.
Je crois que du sport, lui, il avait une question de toile de Spider-Man.
Absolument, oui. Avec, j'ai fini par en acheter un parce que ça fait un bout de temps que ça traîne dans les kiosques, chez les journaux, des marchands de journaux. C'est ces magnifiques petits Spider-Man vendus sous cellophane, une série qui s'appelle Spider-Man, la collection exclusive Les Incontournables. Et en fait, je me rends compte que celui que j'ai acheté face à face avec le clone dans la série Spider-Man Les Incontournables, attention, c'est du beau matériel, cartonné
couleur, un papier
correct, nickel,
une impression qui bave pas trop. Oui,
non, c'est impeccable. Je me suis rendu compte que j'avais acheté l'avant-dernier en fait. Il y en a un dernier, c'est-à-dire le huitième. C'est le numéro 7 là, Spider-Man face à face avec le clone. Et le dernier va sortir le 15 août, c'est le secret de Peter Parker. Est déjà sorti donc numéro 1, c'est le costume maléfique, il y avait l'attaque du lézard, la dernière chance de Kraven, la menace du bouffon vert, dans les tentacules d'Octopus, le retour du bouffon vert, et enfin donc celui-ci que j'ai sous la main face à face avec le clone. Alors c'est la bonne époque de Spider-Man, le bouquin que j'ai face à face avec le clone, ça couvre l'épisode. Alors c'est ni plus ni moins en fait on ramène les différents comics Amazing Spider-Man du numéro 144 au numéro 151 pour le bouquin qui me concerne, c'est-à-dire de mai 75 à décembre 75. Donc les autres sont antérieurs. En fait, ce sont des histoires sur plusieurs volumes, tels qu'ils étaient sortis. qu'à l'époque, il forme une histoire complète. Donc, une histoire complète réunie dans un seul bouquin. Alors là, bon, c'est quand même du lourd parce que bon, c'est la période Jerry Conway, Archie Goodwin, Len Wein au scénario, Ross Andrew, Jill Kane au dessin et John Romita Senior n'est que encreur sur c'est pour vous dire hein, que bon bah c'est du beau monde quand même qui œuvre sur cette version de Spider-Man avec une présentation des personnages et à la fin du bouquin eh bien les couvertures originales des différents Amazing Spider-Man qui étaient sortis à l'époque.
Surtout que c'était franchement une bonne époque pour Spider-Man classique parce que c'était la seule série qui à l'époque marchait bien. X-Men allait se lancer, était en cours de lancement à l'époque. On était dans les derniers soubresauts de l'âge d'argent, adieu Jack Kirby et tout ça. Donc il n'y avait plus grand chose qui se passait sinon justement dans Spider-Man.
Ah ouais. Et en plus du bouquin cartonné, donc, eh bien, il y a un petit fascicule souple hein, qui raconte une petite histoire de Spider-Man, et avec toujours le souci ben, de vous allécher, c'est-à-dire de vous faire acheter le reste. Hein. Bon, bah, j'ai bouquiné comme ça vite fait, quoi, pendant que tu faisais tes trucs, tes chroniques. Et en fait, c'est assez intéressant quand même. Parce que c'est le numéro de Spider-Man dans lequel on voit apparaître le Punisher.
Ah
la
oui.
Première apparition du Punisher. Avant qu'il ait sa série propre. Et pas chez Marvel en plus. Hein. Le Punisher était apparu donc dans une aventure de Spider-Man. Déjà avec ses caractéristiques. Hein, savoir ses parents qui ont été tués à cause d'une guerre de gang. Et pour ça, ben, il se venge et il décide de dégommer tous ceux qui font le mal sur le monde. Et là, et ben, il se fait niquer la tête par le chacal qui lui fait croire que Spider-Man c'est un méchant. C'est pour ça qu'il essaie de le dégommer. Et avec à la fin juste là, c'est toujours assez rigolo. Hein, on le voit des fois dans les intégrales de chez Marvel. C'est les dessinateurs qui se mettent en scène, quoi. C'est-à-dire des petits trucs de 4 pages hein, assez humoristiques dans lesquels les dessinateurs se mettent en scène et imaginent une petite histoire comme ça. Alors c'est assez rigolo. Hein. Là, vous voyez le mec qui est assis, là, c'est Stan Lee, quoi. Là, tu vois, c'est lui, là.
Ah oui, quand il était jeune, ouais.
Quand il était jeune, bien sûr. Voilà, tout ça, donc, alors ça, c'est le numéro 7. Donc, ça coûte 8,95. C'est pas excessif, hein, on va dire, hein, parce que bon, bah, c'est quand même un bouquin qui fait plus de 130 pages, quoi. Donc, bah, il y a de quoi. Hein,
bah, c'est un prix de bouquin normal.
Voilà, c'est dans la moyenne normale.
Hein. Pour ce type de livre, quoi.
Voilà.
Sauf qu'en plus, il y a de la pub et elle est gratos. Voilà. Midi 52, on vient à peine de clore
la BD.
La BD, mon Dieu, mais qu'est-ce qui nous attend par la suite ? La chronique cinéma vous est présentée en Dolby Mono Surround par Thomas.
Alors, on va commencer.
Alors, tu démarres, toi, oui.
On va commencer, je disais, par un dessin animé japonais qui est sorti en salle à Toulouse et surtout à l'ABC, d'ailleurs, il me semble. Je ne sais plus s'il est sorti dans les grosses salles, ça m'étonnerait. Bon, tout ça pour dire que je l'ai vu à l'ABC, voilà. Donc, c'est un film d'animation de Mamoru Hosoda et qui s'appelle La Traversée du Temps et c'est produit par le studio Madhouse. Alors, ça raconte l'histoire des lycéens Makoto, Chiaki et Kusuke, qui sont trois grands amis passant leur temps libre à jouer au baseball. Et eh bien, un jour, Makoto acquiert mystérieusement le pouvoir de remonter le temps.
Attendez.
Voilà, elle va utiliser ce don pour prévenir les catastrophes et aider son entourage, mais aussi fuir les implications sentimentales. Alors, vous l'aurez deviné, c'est pas du tout ancré SF, même si le concept de voyage dans le temps, retrouver le futur, tout ça, c'est pas du tout ça dans le film. C'est surtout un truc un peu mélancolique, à la Un jour sans fin, et même des répercussions un peu à l'effet papillon. Et justement, La Traversée du Temps s'adresse une chronique assez mélancolique de trois lycéens qui sont un peu au carrefour de leur vie. On se demande ce qu'ils vont faire après le lycée, est-ce qu'ils se posent des questions, tu vas t'orienter scientifique, littéraire, tout ça. Et en fait, ils laissent le temps couler, ils se laissent vivre un petit peu. Donc, il y en a un qui est plutôt doué en sport, l'autre plutôt en école. Et puis la jeune héroïne, elle sait pas trop parce qu'elle est pas maladroite, elle est pas trop douée pour les travaux manuels, elle est pas trop trop intelligente mais pas stupide non plus, bon c'est juste une élève normale, et à qui il arrive justement ce pouvoir de traverser le temps, et elle va mettre à profit pour tiens là je me suis pété la gueule dans l'escalier, donc bah là je vais faire attention de pas trébucher quoi, sur le pied de mon camarade, mais justement le fait que je trébuche pas, et ben il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va trébucher, l'autre il va, voilà, c'est l'effet boule de neige. Et donc elle se rend compte que ben il y a certains défis qui accostent son meilleur ami. Alors évidemment elle s'est aperçue qu'elle est amoureuse secrètement de lui, donc elle va essayer de le pousser dans les bras d'une autre pour justement pour pas être déçue à son tour quand le mec va lui faire sa déclaration, etc. Donc c'est à mi-chemin entre des effets comiques et des effets assez mélancoliques. Tu te dis tu te prends de sympathie pour le personnage aussi, et qui a un côté un peu garçon manqué également. Alors bon, le côté comique c'est à chaque fois qu'elle doit voyager dans le temps, elle doit s'élancer dans l'air et puis faire des roulades, donc évidemment comme c'est à répétition, elle atterrit dans le placard à balai, donc elle revient avec le saut sur la tête, bon c'est assez rigolo comme ça. Et alors le character design, si vous connaissez Evangelion, vous allez dire ah tiens, on reconnaît certains personnages d'Evangelion, et c'est pas étonnant parce que c'est le même character designer, c'est Sadamoto.
Donc, et ouais. qui a fait des infidélités à Gainax ou quoi?
Oui, tout à fait, oui. Bah, Sadamoto, je sais pas ce qu'il a fait d'autre à part Evangelion, donc je suis un peu mal placé pour te dire ça. Donc voilà, l'héroïne c'est un Shinji au féminin, en beaucoup plus sociable. Donc voilà, comme je disais, c'est plutôt. Vous prenez le côté Evangelion, c'est-à-dire côté lycée, et puis vous laissez tomber tout ce qui est SF. Évidemment, il y a les voyages dans le temps qui. Dans. Côté SF qui est quand même assez traité parce qu'un aspect graphique assez déconcertant au début, puisque c'est dans des couleurs qu'on retrouve pas dans le reste de l'animé, et un effet 3D qui surprend au départ, mais finalement comme c'est un truc à répétition, merci du sport, tu vas les régler ce micro, oui.
Et là fini par faire craquer Thomas très voilà. Fort.
Et mais en même temps ce qui est la grande force du film, c'est qu'il y a certaines choses qui sont suggérées. Parce que l'auteur du bouquin, déjà, c'est l'auteur du bouquin qui avait inspiré Paprika. Et on voit qu'il y a certains personnages qui sont à peine esquissés un peu à Harry Potter. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un background de fou derrière, mais qu'ils ont juste évoqué. On devine que, par exemple, l'héroïne elle va se confier à sa tante. Elle lui dit « Bon, j'ai le pouvoir de voyager dans le temps. » Et la tante, elle dit « Bah écoute, ma chérie, il faut que tu en profites et tout. Hein ? Quoi ?» Et en fait, elle dit jamais qu'elle a eu le pouvoir de voyager dans le temps, mais elle la comprend aussi. Et on devine, au détour d'une photo sur laquelle la mise en scène s'appuie un petit peu, qu'elle a peut-être aussi rencontré quelqu'un qui pouvait peut-être voyager dans le temps aussi, mais c'est jamais dit dans le film. Et ça te laisse suggérer. Donc c'est la grande force du film. Et puis l'autre grande force, c'est la mise en scène, comment il montrait le lycée. C'est-à-dire que c'est tout le temps des plans fixes sur des scènes. Et à chaque fois que cette scène revient, ou par exemple quand il discute dans la cage d'escalier, c'est tout le temps la même cage d'escalier, c'est tout le temps le même cadrage. Donc
c'est des recettes, c'est justement les recettes d'économie qu'avait utilisé Gainax dans ses séries, et qui était le truc justement pour impliquer un peu mieux le spectateur.
Exactement, ouais. Et on sent vraiment que ça pourrait être ton lycée à toi, et puis avec tes camarades à toi, parce que c'est quand même un film qui prend le temps de mettre en place les relations entre les élèves, et puis il n'y en a aucun qui est vraiment. Tous sont un peu décrits, et puis tu retiens un peu les prénoms, tiens les personnages, il n'y en a aucun qui est tiens, je fais juste du background. Non, ils sont tous un peu une importance à un moment donné dans le film, et c'est assez sympathique. C'est comédie mélancolique un peu. Elle a un côté Amélie Poulain, la jeune fille, mais tu as le côté attachant d'Amélie Poulain également. Donc La Traversée du Temps, c'est un très chouette film sur les années lycée, et voilà, c'est un film d'animation produit par le studio Madhouse et réalisé par Mamoru Hosoda. Ah, on est dans une ambiance zen là. Je pense qu'on va changer là.
Ouais. Non, mais film. Là justement, je laisse terminer le disque.
Oui,
hein,
vas-y.
C'est Mukta Dancing on One's Hands. Hein. C'était leur second album.
Retour en enfer. C'est le titre français de Die Hard 4. Réalisé par Len Wiseman, auteur des deux Underworld et toujours les Bossoulis. Justin Long, Maggie Q et Timothy Olyphant. Alors Timothy Olyphant, c'est le méchant de Die Hard et qu'on retrouvera dans le rôle titre du film Hitman dont on parlait tout à l'heure. Alors des cyberterroristes plongent les États-Unis dans la panique en manipulant leur réseau informatique parce qu'ils vont les faire chanter, le gouvernement. Chargé de la protection d'un hacker, John McClane ne va pas rester sans rien faire. Ben oui, parce que les terroristes, ils devraient savoir qu'il y a John McClane au milieu, et puis ils pensent avoir affaire à un stupide inspecteur, et puis, ah merde, lui, il crève pas comme les autres. Voilà, donc toujours le flic increvable. Bon, il a plus de cheveux, et puis il est... ça tranche vachement avec le, un peu avec le 3, parce que dans le 3, on l'avait laissé en migraine.
Gueule de bois.
Voilà, gueule de bois, et puis il était en Marcel et tout. Et puis là, c'est le, quand même le premier de la franchise où il est pas en Marcel. C'est juste, bon, il a changé de look un petit peu. Mais c'est toujours McClane. Hein. Alors, ce qui est rigolo, c'est que, bon, il y a McTiernan qui a réalisé le 1 et le 3. À chaque fois, il a démoli tous les canons du genre de film avant, parce que bon, Piège de cristal, il a inventé le genre, et puis dans le 3, il a démoli toute la franchise en partant sur autre chose. Et t'as l'impression que le réalisateur du 2 et du 4, ils suivent juste un peu McTiernan. Alors le 2, c'était transposition de Nakatomi Plaza dans l'aéroport par Rennie Harlin. Le 4, il a fait Los Angeles 2 jours, on va faire Los Angeles 2 jours.
New York de jour.
Non, c'était Los Angeles dans le 3, et là je me trompe, effectivement, c'est à Washington.
Dans le 3, c'était New York.
Ah oui, t'as raison, oui, Manhattan. C'est New York, hein. Ok, mais pas. J'ai fait une erreur. Et donc à chaque fois c'est des suiveurs, et puis tu t'aperçois que McTiernan, justement, c'est quand même un putain de gros dieu. Là ils ont changé, parce que Holly, d'habitude, c'était toujours l'ex-femme. Voilà, la femme puis ex-femme qui dit toujours « Ouais, McClane, t'es chieur et tout. » Et puis, finalement, t'es bien dans les situations de crise. Et ben là, elle a été remplacée par sa fille, qui c'est la même, en fait. Voilà. Et les scènes d'action, elles sont faites à l'ancienne, puisque bon, il y a très peu de numérique. On retrouve le McClane qui crève jamais, qui démolit un hélicoptère avec une bagnole. Il y a quelques répliques assez rigolotes également. On va reprocher défaut de cohérence, parce que il y a une fille qui fait du kung-fu, un des deux acteurs phares de Banlieue 13 qui fait des acrobaties. C'est super bien, mais ça n'a rien à faire dans un die-hard. À part ça, t'en prends plein les mirettes, et puis les scènes de baston, ça tue. À un moment donné, il y a un duel entre un camion poids lourd et un avion de chasse américain dans les rues, sur l'autoroute et tout. C'est McClane qui est au volant du camion.
D'accord, tout est dit.
Il crève pas, mais bon, c'est quand même le combat un peu disproportionné. On retrouve McClane avec plaisir, puisque ça fait mine de rien depuis 95 qu'on n'avait pas eu les aventures de McClane. La franchise,
punaise.
Petit film très efficace, avec pas mal de charme, mais c'est vrai qu'on attend le retour peut-être de McTiernan pour le 6, quoi. Voilà, donc c'était d'ailleurs 4 retours en enfer.
Ok, je crois que t'avais quelque chose pour nous.
Oui, tout à fait.
Parce que j'ai le doigt sur le starter là.
Et si on faisait un petit top 5 sur Die Hard ?
Le top 5. Numéro 5.
Top 5 sur quoi ? Ça va être le top 5 des répliques de la série Die Hard.
Ouais, parce qu'il y en a 4, je comprenais pas là.
Alors, non, c'est sur la franchise en fait. Donc, numéro 5. Alors il faut que vous deviniez le film dont il est question. Tu as demandé un miracle, Théo, je t'offre mieux, je t'offre le FBI.
Le 3.
Non.
Le 2.
Non, le 1. C'est quand il y a les deux agents Johnson. Quand il y a...
Mais t'as exactement la même réplique dans le 3. Il me semble.
Non, c'est pas le... Je crois qu'il y a des fédéraux, mais ils jouent pas le même rôle dans le 3. Parce que dans le 1, en fait, ils sont... les méchants sont bloqués par le système informatique du Nakatomi Plaza, et puis il y a le FBI qui coupe l'électricité. Donc du coup...
Mieux.
Suivant.
Pardon.
Numéro 4.
Dites, je peux vous poser une question? Comment vous avez fait pour pas être informé à l'examen médical? Vous avez envoyé un singe à votre place?
Ça c'est le petit réveil de McClane, hein, ça? Dans le 3?
Non.
Non,
c'est dans le 2 quand il y a le Dennis Franz qui le fait chier.
C'est Dennis Franz, ouais.
D'accord. Numéro 3.
Fort Knox? Ah, c'est pour les touristes.
Bah justement, j'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure.
C'est le 3, ça.
Et oui, tout à fait, c'est Jeremy Irons qui attaque la plus grande réserve fédérale dehors du monde.
Numéro 2.
La dernière fois que j'ai vu ta copine, elle était éclatée en bas d'une cage d'ascenseur avec une camionnette dans le cul.
Celui-ci, c'est dans le nouveau.
C'est dans le nouveau, ouais.
Voilà, c'est dans le 4.
Numéro 1.
Bon, il manque la réplique de McLean, hein. Il picaille, pauvre con. La réplique qu'il fournit à chaque fois, à chaque nouvel épisode.
Ouais, ouais.
Voilà, c'est un classement qui a été réalisé par Thomas.
Alors, pourquoi Yippie-Kaye ? C'est parce que Hans Gruber, dans le premier, le compare à un cow-boy et à la fin, bah, il lui dit Yippie-Kaye pour con et la réplique il a suivi après.
On continue dans le cinéma, je crois.
Oui, avec un petit film d'auteur, la Transformer, de Michael Bay, avec Shia la Béouf.
Bravo, bien dit, bien dit.
Voilà. Megan Fox, qu'est-ce qu'elle est bonne. John Voight, John Turturro et Bernie Mac. Alors, ça raconte la lutte sans merci entre les protecteurs Autobots menés par Optimus Prime et les destructeurs Decepticons.
Tu peux le faire avec la vraie voix par Optimus Prime.
Alors, la lutte sans merci entre les protecteurs Autobots menés par Optimus Prime et les destructeurs Decepticons dirigés par le cruel Megatron. À la recherche du Allsparks, cube extraterrestre capable de transformer les machines terriennes et à servir l'humanité, leur affrontement va pulvériser quelques pâtés de maison. Bon. Alors voilà, bon, alors le scénario, faut pas y aller pour ça, puisque c'est, voilà, vous mettez des Transformers entre les mains de gamins 10 ans, et puis à faire, ouais, pouf, ouais, puis on a qu'à dire, pas un geste, et puis il y a les gamins, là, les messieurs, ils vont se faire péter leur nez par les Transformers qui se cassent la gueule au milieu des buildings, alors là, on va mettre un building là, et puis on va l'exposer, et puis il y en a plein après, ouais! Voilà, donc ça c'est le film. Et alors, au début, c'est juste une comédie adolescente avec, un ado un jeune adulte qui va avoir sa première bagnole, et puis maintenant qu'il a sa bagnole, il dit chouette, il faut que j'ai la fille qui va avec maintenant. Donc il va draguer la fille taillée en guitare.
Vous croyez que ça, ça avait disparu des pubs de bagnole depuis 15 ans quand même, hein.
Non,
il aura la femme.
Voilà, c'est exactement ça. Avec un soleil couchant derrière et la femme qui ouvre le capot parce qu'elle s'y connaît vachement en mécanique. Et puis, ouais, tiens, t'as le carburateur et tout. Merde, tu m'as coupé dans mon élan, qu'est-ce que je disais. Voilà, donc les nanas, elles sont super bien gaulées, t'as les Transformers qui sont rutilants, le gamin, bon, au début, t'as de la pitié pour lui, puis finalement, il va être vachement courageux sous les explosions. Alors voilà, il y a les Autobots, les gentils et les méchants, bon, ils ont gardé le concept du dessin animé et des robots d'origine. À partir du moment où il y a les bastons, bon voilà, on entre dans autre chose. Franchement, ça tue, mais tout est conçu pour mener vers le duel général final avec la rencontre entre les Decepticons et les Autobots. Bon, voilà, il y a les méchants, enfin les gentils qui se transforment en voiture et les méchants qui se transforment en engin de guerre. Donc, ça peut être hélicoptère, tank. Ah, il y a une voiture de police dans les méchants aussi. Et puis alors c'est que des pubs cachées pour des pubs pas cachées d'ailleurs pour les marques de bagnole, donc
ça s'appelle du placing.
Voilà, avec
ça s'appelle du placing.
Avec les Autobots qui passent devant un magasin de bagnole. Tiens, si je copais cette bagnole, ouais, la Pontiac, ouais. Et là, oh, mais qu'est-ce que tu fous dans une Camaro toute pourrie. Ah mais non, la Camaro va se retransformer après, toute rutilante et tout. C'est trop joli. Voilà, bon, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir dire sur les bastons? Voilà, si t'imagines des bastons de Transformers avec tout qui explose, avec mais pas à la japonaise, dans les carrières de rochers, avec rien du tout, hein, c'est avec des buildings, avec des gens dans les buildings, des bureaux dedans, et des gens et des bagnoles qui sont tout cramés au rez-de-chaussée. Bon, pas les gens, les bagnoles surtout, parce que les gens ça meurt pas. Bon voilà, c'est ça dans le film. Les buildings qui explosent avec un Transformer qui se prend un autre dans le bide, et les buildings, t'as la caméra qui est dans le building, t'as les mirages, les avions de chasse Transformers méchants, et ils envoient des missiles qui vont au milieu de la foule, etc. C'est une demi-heure de trip final hallucinant. C'est pour ça que tu y vas et c'est pour ça que t'en apportes ton argent. Donc bon, Transformers, c'est le rêve final de tout geek qui se respecte, qui espère voir une transposition live d'Evangelion, qui espère voir du Gundam, du Spilvan, voilà, du Bioman, tout ça. Transformers l'a fait avant, voilà, ça, à ce niveau-là, ça tue. Franchement, on n'avait pas vu des combats de machines avec des machines géantes depuis Matrix Revolution.
télévision avec du sport.
Ouais, alors on a le choix. On va commencer par un petit quiz sur Heroes. Alors tout d'abord,
attention.
Alors sachez que dans les deux épisodes de ce soir de Heroes,
non, qu'est-ce qu'il va dire? Non,
Christopher Eccleston, c'est ça.
Non, Christopher Eccleston, on l'a vu apparaître dans le dernier épisode de samedi dernier,
hein,
furtivement comme ça.
Hein
oui, à la fin de l'épisode, Peter le rencontre dans New York, le mec qui est en train de piquer des trucs là.
C'est l'homme invisible, c'est Christopher Eccleston.
Ouais,
ouais, c'est Docteur.
Le barbu.
Docteur.
Là. Le barbu,
Oui, mais moi non plus.
Ah ouais.
Le barbu, et à un moment il le voit quand il a des hallucinations et puis
il est en train
le
de rigoler.
Voilà.
Ah, c'est lui.
Voilà.
Eh ouais. Et ouais.
Tu me trouves
dans le nom.
Dans le... Bah ouais, le docteur se retrouve là-dedans et.
Dans le nom. Dans le nom dans la série est Claude Rains. Et Claude Rains, c'est un acteur très célèbre dans les années 30, 40 et 50. Et si on a choisi le nom de Claude Rains, en fait, c'est parce que Claude Rains, l'acteur, a tourné dans une des premières versions de L'Homme Invisible au cinéma.
Ah, d'accord.
Référence. Ça, c'est donc, on va le voir apparaître. Et là, on va commencer à comprendre qui il est. Vraiment, dans l'épisode de ce soir, le premier épisode de ce soir qui s'appelle Le Remède. Et on va également voir apparaître furtivement Sulu.
Oui,
George
oui.
Takei. Le père qui joue le rôle du père de Hiro.
Hein, donc il va parler en japonais normalement.
Voilà, c'est ça.
C'est qui alors son père alors? Celui qui incarne son père?
Eh ben c'est Sulu dans Star
c'est
Trek.
Star Trek?
Ah ouais, je connais, je suis pas Trekker moi.
Bon d'accord, ok. Bon il est pas Trek du tout. Hein. Alors là vraiment pas quoi.
Tu me déçois.
Dans le deuxième
qui fait des signes dans le dos du sport.
Salut Kinou.
Dans le deuxième épisode de ce soir de Heroes qui s'appelle La fille de. Là on va réaliser que l'une des nanas qu'on a déjà vu dans un épisode il y a 3 ou 4 semaines, en fait elle a un rôle très important à jouer pour la fin de la série, du moins de la saison 1. Je vous laisse deviner, hein, on va pas en rajouter. Sinon que l'épisode est réalisé par Janos Vark, connu, puisque c'est lui qui a réalisé le film Supergirl et les Dents de la Mer 2.
Dans de la merde. Autres.
Voilà, c'est ça. ensuite, alors un petit quiz vite fait sur Heroes.
On y va.
Un petit quiz.
Attends, je remonte.
Allez, quelques petites questions. Alors, c'est un quiz qui est dans le comic box hors série X-Men.
Ah ouais, donc si c'est comic box, c'est un joueur de.
Alors attention, bon, j'ai choisi les questions les plus faciles.
Ah d'accord.
Oh, putain.
Ah merde, si je le dis, ça veut dire
okay.
C'est
dur. Non, pas forcément, parce qu'il faut, il suffit d'avoir un petit peu suivi la série pour avoir pas mal de réponses quoi. Bon, il y a des réponses, il faut vraiment avoir potassé le sujet quoi. Il y a pas de
d'accord.
Problème. Alors déjà, que dit Hiro sur la couverture de Ninth Wonder numéro 14?
I did it.
Voilà,
oh,
très bien, très bien. Ensuite, on a. Lorsque Isaac et Peter essayent de trouver la signification de sauver la pom-pom girl, sauve la planète,
le monde,
il leur manque une peinture que Simone a emportée. Que représente cette peinture?
C'est Peter Petrelli allongé avec la pendule derrière.
Non, celle-là, c'est celle qu'il a refaite.
Mais une précision?
Ben il est mort.
Voilà, ouais. bravo. Ah ouais, tu vois que c'est assez facile. Alors là, c'est il faut avoir un petit peu potassé. De quel véritable peintre Tim Sale s'est-il inspiré pour réaliser les peintures d'Isaac Mendes? Alors là, laisse tomber. Bon, je vais vous donner un indice. Tic-tic-tic, c'est un grand classique espagnol.
Oh putain, c'est Dalí.
Voilà, Francisco Goya. Oui.
Attends, mais c'est Tim Sale qui fait les peintures qu'on voit dans la série?
Oui.
Ah ouais.
Ah oui.
La gueule du Thomas.
C'est bizarre.
Putain,
qu'il ait fait deux styles si différents la série.
Il déplane. Et quels sont les deux seuls parmi les personnages principaux à ne jamais être sur les peintures d'Isaac? Là, il faut que je retourne.
Alors
parce
que il y a Nathan. Il y a Nathan Petrelli.
Absolument
et...
pas.
Merde.
Alors non. C'est il y a le Black.
Ah oui.
Lequel?
Celui qui est tout
efface.
Le temps muet.
Celui qui efface les gens.
Celui qui efface ses mémoires.
Non.
Non, il est. C'est alors c'est l'autre.
Ah, c'est l'autre.
C'est l'autre et sa copine.
Non, sa copine, on la voit.
C'est le gamin.
DL, c'est le gamin.
Non, c'est le flic, Matt Partman.
Ah merde.
Putain.
Voilà. Et encore une dernière question et tout. Quelle est la toute première prophétie que l'on voit représentée en peinture dans la série?
C'est Peter qui vole. La bombe? Non, c'est pas la bombe.
Non.
C'est Peter qui sort avec la Black. Non plus.
Tu trouveras pas.
C'est une pom-pom girl?
Non.
C'est Hiro?
Non.
La BD?
Non.
Merde.
Ah,
c'est une éclipse de soleil.
Oh putain.
Ah ouais, putain. Un deuxième quiz tiré de du Technic Art hors série, série TV, alors qui s'appelle tout simplement « Vous touchez comment niveau série ?»
D'accord.
Alors moi je l'ai fait en entier.
Dans 100%.
Je suis... non, pas 100% quand même, hein, mais entre 20 et 27 bonnes réponses.
Sur...
je suis largement au-dessus.
Sur
30 ? Il y a 27 bonnes réponses.
Ah, d'accord.
Il y a 27 questions, et là je suis entre 20 et 27, c'est-à-dire au top. D'accord.
J'imagine que Christine a dû faire 27.
Ben non, on l'a fait conjointement, tu vois. Eh ouais, on se complète. Alors, des trucs assez faciles quand même, quelques petites questions assez faciles. Sur laquelle de ces séries Quentin Tarantino n'a pas réalisé d'épisode? Alors il y a Urgence en A, Oz en B et Les Experts en
Oz,
C.
Oz.
Bravo, facile hein, quand même. Ensuite, Nip Tuck est une expression familière signifiant lifting aux États-Unis. Vrai
non,
ou faux?
Vrai.
Bravo. Quels personnages n'ont jamais couché ensemble dans Friends? Alors A, Joey et Rachel.
Voilà.
B, Gunther et Rachel. C, Chandler et Monica.
Aucune idée.
Je peux pas. Bon, d'accord, ok, laissez tomber. C'était Gunther et Rachel, bien évidemment. Ensuite, pour rigoler, laquelle de ces séries policières n'est pas allemande? Ça, vous devez le savoir. Taggart, Tator ou le renard?
Ah merde!
Le renard!
Non!
Tator?
Non!
C'est Taggart? Merde.
C'est Taggart, c'est écossais, Taggart.
Oh, oh putain, mais quelle andouille!
Alors, la question. Là, parce que bon, bah, il y a le, si vous voulez, il y a, c'est un QCM, mais il y a également des questions visuelles. Alors, la question, pour,
ouais,
Xavier.
C'est pas sympa pour les auditeurs qui n'ont pas la couleur.
Qui se déplace dans ce truc?
Docteur Who!
Mais voilà. Non! Mais non! Il utilise une cabine de police, il n'utilise pas une cabine téléphonique.
Ah, si.
Ah, elle est erronée.
Ah, si, ah,
mais
si.
Mais non, c'est erroné. Mais non, la bonne réponse, c'est chapeau melon et bottes de cuir. Au bout d'un moment, ils disparaissent dans une cabine comme ça.
Non.
Mais
bon.
Si.
Ensuite, la question numéro 20. Alors là, c'est pour les vieux de la vieille. Quel monument parisien célèbre Belphégor?
Le Louvre.
Dans le feuilleton de Claude Barma. Ils ont déjà répondu avant la fin de la question, très bien.
Oui, parce qu'il y a eu le film entre-temps.
Dur. Quel styliste a été consultant de mode sur Deux flics à Miami? Alors, je vous donne Fred Perry, je vous donne Calvin Klein ou je vous donne Gianni Versace.
Je ferai Versace, c'est évident.
Bravo,
ça me semble évident.
Bravo. Et une dernière, quel est le nom du commissaire incarné par Raymond Souplex dans les 5 dernières minutes?
Commissaire Bourrel.
Voilà, très bien. Je vous en fais une petite dernière.
Ouais.
Alors, dans quelle ville se déroule Preuve à l'appui, Ally McBeal et The Practice?
Chicago.
C'est Chicago, oui.
Absolument pas, c'est Boston.
Merde.
Goal.
On s'est fait flinguer au final.
Ah ouais. C'est ce qu'on appelle les faux amis. Un peu de télé à présent, vite fait. Alors là, je vous ai fait un petit programme plutôt des petits trucs de vacances. Hein. Je ne vais pas vous parler de cette admirable série qui passe tous les soirs sur la 3 à partir de 20h30. Non, plus belle la vie, pourtant.
Non, mais merde.
Pourtant.
Il y aurait de quoi.
Depuis qu'Arnaud a pardonné à Franck, Franck est revenu voir Blanche. Blanche qui doit accoucher. Mais je n'en dirai pas plus.
Et il suit.
Alors, tout d'abord, dans le série sitcom, on va dire franchement sitcom. Hein, enfin, c'est un petit peu le rythme de la série. En fait, ça s'appelle Mes adorables voisins. Et c'est diffusé depuis vendredi dernier sur Teva en prime time hein, à 20h50. Alors, c'est une sitcom. C'est-à-dire que c'est un format long, hein, c'est des épisodes qui font 50 minutes quand même, c'est produit par les Espagnols. Alors au départ je me suis dit tiens putain ça ressemble à un truc d'Alex de la Iglesia et tout, ça a l'air d'être un petit peu initié, on y retrouve un petit peu de cet esprit on va dire, mais c'est quand même plus dans l'esprit sitcom pur, c'est-à-dire des fois des gags bien prout-prout, bien gros et tout, mais enfin bon, on rigole bien quand même, c'est un petit peu hystérique, comme savent le faire les Espagnols, ce dont sont incapables les Français, ça, il faut le dire, hein. Même les Ricains savent pas faire ce genre de rythme hystérique comme ça, hein. Ce genre de vie, c'est typiquement espagnol, donc ça vaut le coup. Dommage qu'on n'ait pas la VO, parce que bon, si on y gagnerait peut-être, hein, même si on piche pas l'espagnol, mais au niveau du flow, quoi, comme ils disent les hip-hoppers, tu sais, quoi, c'est, ça date de 2004, et c'est produit par Antena 3, excellente chaîne espagnole, hein, laissez tomber la
comment ça s'appelle, c'est le groupe M6, hein.
La TVE, laissez tomber TVE, hein, mais Antena 13, ça c'est quand même une bonne chaîne.
Oui, mais Antena 13, c'est le groupe c'est le groupe RTL, donc avec, c'est la même chaîne que M6,
avec dans les rôles principaux Paspalia, Miriam Díaz-Broca, Francis Lorenzo, Nuria Gago, Juanjo Cucalion. Et le principe est simple, c'est en fait l'affrontement entre deux familles, une famille qui habite dans un quartier bourge et tout, le mec est chirurgien plastique et tout, la nana elle travaille dans un magazine de mode, les enfants vont dans une école privée, ils ont une bonne à tout faire à domicile russe et arrive juste à côté de chez eux parce que bon c'est des maisons construites, tu vois, et t'as juste le mur de séparation au milieu mais chacun a sa moitié de maison, enfin c'est des grandes maisons quand même, arrive dans cette maison une autre famille qu'elle vient d'un quartier vraiment populaire et tout, le mec il vendait du poisson, des légumes sur le marché et tout, mais la petite fille qui doit avoir 5-6 ans a gagné un concours de chant à la télé parce qu'il faut savoir qu'en Espagne ça s'appelle Operación Triunfo et c'est l'équivalent de la Nouvelle Star,
c'est Star Academy.
Ou Star Academy, enfin bon, peu importe. Mais il y a également la même chose pour les petits enfants, pour les petits gamins. Et on le voit à la télé, c'est vrai, hein, c'est réel. Hein. On voit des gamins de 5-6 ans chanter et s'affronter donc avec pareil, le même principe et tout. Le public vote, on élimine les gamines à la fin, il n'en reste qu'une. Et c'est Chenoa qui a gagné d'ailleurs l'une des dernières. Hein, Chenoa. Je sais pas si vous connaissez,
oui,
mais enfin
oui.
Bon, voilà. Bon,
elle avait gagné auprès Opération Triunfo.
Voilà, mais
elle avait battu Nolwenn Leroy à la finale de la deuxième saison des Star Academy.
Européenne, donc. Voilà. Et là, bon, il s'agit donc de Sheila, la petite fille donc de cette famille qui gagne le gros lot, hein, et qui donc fait passer du statut de famille de va-nu-pieds presque à la rue à famille super aisée, on est pété de thunes, super et tout. Donc, il s'installe dans cette banlieue. Et c'est donc l'affrontement hein, social, intellectuel et physique hein, des deux familles, deux styles de vie complètement différents, hein, les nouveaux riches qui arrivent et tout, et qui fracassent tout comme c'est pas permis, et qui permet justement un nombre incroyable de situations très très comiques, il faut le dire. Le reproche à faire, c'est que, eh bien, il y a un manque de rythme qui est vraiment évident, hein, qui fait que la série est un peu chiante, quoi. C'est-à-dire, il y a vraiment des baisses de rythme marquantes, mais par contre, il y a des gags qui sont vraiment excellents, c'est assez bien foutu. Il y a des références, ça se passe à Madrid, donc des références au Real de Madrid, au football, en veux-tu, en voilà. Il y a pas de problème et tout. Ça marche très très bien quand même. Hein. Mais, c'est vraiment de temps en temps les petites baisses de rythme hein, qu'on n'a pas justement dans les sitcoms qui ont le format sitcom, hein, c'est-à-dire le format 25 minutes où vraiment t'en prends plein la gueule pendant 25 minutes, il n'y a pas de baisse de rythme. Là, bon, ben, comme le format est un format de 50 minutes, ben, justement, il y a quelques baisses de rythme, c'est un petit peu dommageable. Mais c'est quand même très, très regardable, hein, de toute façon, quand on se perd dans cette période d'été, t'as pas envie de te prendre la tête et tout, c'est tout à fait recommandé. C'est sur Teva, donc tous les vendredis à 20h50, il y a deux épisodes. Les deux épisodes de vendredi prochain, c'est Mariage Royal et Un homme jaloux, mariage royal, carrément, le facteur qui se plante et tout, ils reçoivent une invitation pour le mariage de Felipe, le prince, l'héritier de la couronne. Et donc, ça, c'est le premier épisode de vendredi prochain. Et il y a donc une rediff également le mardi soir à 22h30. Mes adorables voisins, donc, une sitcom espagnole sur Teva. Ensuite, dans un tout autre registre, mais vraiment complètement différent du western, rappelez-vous, 1970, sur la deuxième chaîne, après Ay Chaparral, après Bonanza, après Le Virginien, après Au nom de la loi, on avait Les Bannis, The Outcast. The Outcast, une série créée sur ABC en 68, hein, et diffusée donc en 70 par la deuxième chaîne, hein, qui raconte l'histoire de deux personnages principaux, devenus chasseurs de primes, hein, malgré eh bien, leur background complètement différent. Tout d'abord, on a Earl Corey, qui est aristo virginien, quoi, un mec du sud et tout, interprété par Don Murray. Alors, le nom vous dit quelque chose si vous êtes un fan de Marilyn Monroe, parce que c'est le mec qui bécote Marilyn Monroe de Bus Stop. Voilà. Ok, et c'est également pour ceux qui ont regardé les séries à fond les manettes depuis Dallas et qui sont tombés amoureux de ce genre de truc. Eh ben, c'est également Sid Fairgate, le mari de Karen Fairgate, interprété par Michelle Lee dans Côte Ouest. Ouais, en face de lui. En face de lui, on a Otis Young, hein, qui joue le rôle d'un esclave affranchi qui s'appelle Jamal David. Et donc les deux malgré les différences vraiment ethniques et sociales flagrantes qui les opposent, hein, on est au siècle dernier, enfin il y a deux siècles en fait, hein, maintenant quoi, dans l'ouest américain ou dans le sud américain, eh bien ils deviennent chasseurs de primes. Et donc en 26 épisodes de 50 minutes, eh bien on verra ce que ces outcasts sont capables de faire. La série a été interrompue parce que déjà à cette époque-là, hein, il y avait des ligues de morale qui disaient « Ouais, c'est pas normal, c'est vraiment trop violent, il faut pas déconner, hein, mince. » Et même Don Murray, l'acteur principal, quoi, avait déclaré que bon, c'était trop violent, que non, faut pas déconner quand même et tout. Arrêtez, déconnez pas et tout. Et en fait, ça a été, c'est une idée qui est pas neuve, hein, parce qu'on se rappelle que vers la moitié des milieu 60, je crois en 64 ou en 65, était sorti le fameux film de Richard Brooks, qui a fait beaucoup d'émules après. Hein. On a vu beaucoup de rediffs, de redites, des téléfilms, tout, sur ce fameux film qui s'appelle La Chaîne, où justement c'est l'histoire de deux prisonniers complètement différents l'un de l'autre, interprétés par Tony Curtis et Sidney Poitier, qui s'évadent, et mais qui, comme ils sont enchaînés, ben, ils sont obligés de s'évader ensemble. Et bon, il y en a un qui est black, Poitier, Tony Curtis, lui, c'est un gros wasp blanc et tout.
C'est marrant, ça me rappelle
raciste et tout. Et
ça
donc
me rappelle un scénario 10 ans après, mais avec.
Ah oui, mais bon, ben voilà, hein, donc l'original, c'est quand même La Chaîne de Richard Brooks, hein. En 64-65, me semble-t-il. Voilà, donc.
Oui, non, parce que si je parle de.
Alors, Les Bannis, c'est diffusé sur cette excellente chaîne qui s'appelle Equidia, chaîne du cheval,
du choix, ouais.
Et qui remplace en fait à la diffusion de Bonanza, quoi. C'est tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi à 9h du matin. Il n'y a que 26 épisodes, donc allez-y quand même, hein, parce que bon, bah, ça débourre pas mal, hein, quand même, quoi. Je me rappelle quand j'étais gamin, j'avais eu 2-3 épisodes comme ça, vite fait. Mais bon, c'est un peu chaud quand même.
On utilise le mot débourrer, bon. Ça éclate. Quand on parle de cheval en plus.
Attends, il y a autre chose qui va te débourrer, c'est la dernière série, mais la meilleure. Hein, je vous ai gardé le meilleur pour la fin quand même. C'est encore un soap hollandais absolument magnifique. On avait eu déjà sur Canal Jimmy, je me rappelle pas du titre français. Bon, enfin, quand j'ai fait la petite recherche là sur internet, j'ai trouvé le titre hollandais, c'est Maiden de Witt. Hein, c'est-à-dire les filles de Witt, hein, l'histoire de trois sœurs qui héritent de la laiterie familiale en Hollande.
Secret d'héritage.
Secret d'héritage, merci Thomas, merci. La prochaine fois je te téléphonerai, hein, quand je prépare l'émission, il n'y a pas de problème. Là, eh bien, il s'agit d'un genre tout à fait différent. Il s'agit d'une série qui s'appelle Jardin Secret, ou dont le titre hollandais original est Guiche Vrouven. Le principe est simple, eh bien, c'est un desperate housewife à la hollandaise. C'est imaginé par Linda de Mol, qui n'est autre que la sœur de John de Mol, le patron de N de Mol.
Dont le jardinier s'appelle Jardineland de Mol.
Linda de Mol qui interprète, on va dire, pas le rôle principal parce que y a, les quatre rôles sont partagés. En fait, c'est l'histoire de quatre filles, de quatre nanas. Hein, et de leur famille ou de leurs proches parce qu'elles habitent toutes les quatre sont des voisines, hein, dans la même rue d'une banlieue super huppée d'Amsterdam. D'ailleurs, moi au départ quand j'ai vu le truc, je me suis dit c'est pas possible, c'est pas Amsterdam ça. Tu vois, parce que bon, vraiment t'as l'impression d'être à la campagne, mais vraiment à la campagne quoi. Et pourtant c'est à Amsterdam quoi. Alors on a donc Cheryl qui est interprétée par Linda de Mol qui est marié avec Peter Paul Muller, c'est-à-dire Martin Moreno, qui est chanteur de charme, hein, un chanteur à succès, mais enfin qui chante que des merdes, quoi, des grosses daubes, quoi, selon mon goût personnel. Ensuite, on a Tychke Reiniga, qui interprète le rôle de Claire Van Kampen, et qui est marié avec, je me rappelle pas le nom de son mec, mais enfin son mec crève dès le premier épisode, hein, parce que bon, bourré lors de la cérémonie d'anniversaire, la cérémonie de mariage entre Cheryl et Martin, eh bien, il décide de plonger dans la piscine avec Anouk, hein, mais malheureusement la piscine est vide et donc il s'écrase lamentablement dans le fond de la piscine et il meurt.
Je tiens à signaler donc à notre auditeur Jean-Luc Moudinc que ça n'arrive pas qu'à lui, attention.
Ouais, mais là au moins il y avait un peu d'eau dedans quoi, Jean-Luc. Ensuite on a donc Tichkerei Dega qui joue le rôle de Claire Van Kampen, dont le mari crève, donc qui elle est avocate. On a Suzanne Visser qui joue le rôle d'Anouk, hein, qui est une artiste peintre et également sculptrice, hein, qui a une petite fille à domicile et une jeune fille au père thaïlandaise, hein. Ça a son importance parce que bon, c'est un petit running gag qui fonctionne très très bien, hein, le fait de l'incompréhension entre les différentes entre les différentes communautés, quoi, c'est assez rigolo, et qui de temps en temps voit arriver son ex-mari qui est le père de leur fille, hein, Tom, qui est Stewart, donc tout le temps en déplacement de par le monde, interprété par Daniel Boissevin, qu'on voit également dans Secret d'Héritage, hein. Il se tape 2 heures sur 3, hein, et au départ c'est vraiment l'enfoiré de base et tout, on se dit bon bah c'est le mec, il rentre dans la série et dans la laiterie, il drague les une sœur après l'autre, il fait même un gosse à celle qui a l'air le plus au point, et on se dit putain c'est vraiment l'enculé, l'enfoiré et tout, le traître de base, mais bon il se rattrape vers la fin, donc c'est bon pour lui. Daniel Boisson maintenant qui joue le rôle de Tom, et on a Léopold Vita qui joue le rôle d'Evert. Evert qui est le mari de Wilhelmine, interprété par Annette Malherbe. Alors ça c'est le couple modèle, à savoir le père, bon c'est pas exactement ce qu'il fait, mais enfin bon, il gagne très très bien sa vie, il n'y a pas de problème. Et Wilhelmine, elle joue le rôle de la mère au foyer, mais alors parfaite, hein, qui fait tout, sol au plafond, la bouffe, nickel, l'éducation de ses mômes à la maison, est-ce que tu as bien fait tes devoirs et tout, non tu ne sors pas, enfin bon, impeccable, mais bon, qui par rapport aux 3 autres nanas, bon, un problème évident, quoi, c'est que c'est pas elle que t'iras essayer de tirer le soir comme ça, parce que bon, t'as rien d'autre à faire, quoi, ça c'est clair, elle est un peu grosse, vraiment, bon, ça le fait pas, tu vois, quoi, au niveau sexe à pile, du tout, et ça a son importance vers la fin de la saison 1, de toute façon. Alors la série est vraiment très très rigolote, hein. C'est vraiment hyper trash, quoi. Ça n'a pas trop à voir avec Desperate Housewives, parce que, eh bien, on va dire, c'est nettement plus outré, hein. Il y a beaucoup de situations qui sont outrées vraiment à fond, et ça joue, bien sûr, le caractère comique de la ressemblance des différents problèmes qu'ont ces nanas dans leur vie propre, c'est-à-dire dans leur vie leur vie propre familiale, quoi. Et donc quand elles arrivent à se réunir parce qu'elles sont copines dans la vie, eh bien bon, elles se racontent leurs petits problèmes, ou alors elles vont voir le même psychiatre, hein, le docteur Rossi, magnifiquement interprété par Derek De Lint, que j'avais jamais vu aussi hilarant. Derek De Lint, hein, qui est le personnage principal de la série Poltergeist, rappelez-vous Poltergeist. Punaise. Ah oui, et là bon, il est un petit peu maigri, mais enfin il est reconnaissable, c'est bien lu dans le générique, hein, de toute façon. Alors c'est con pour vous parce que vous avez complètement loupé la saison 1 qui s'est achevée mardi dernier. Il y a quand même possibilité de voir les derniers épisodes de la saison 1. Alors, soit ce soir, pour regarder l'épisode 5, il y a 8 épisodes par saison. Donc l'épisode 5 et l'épisode 6, Question d'ego et Magie Noire. Alors Magie Noire, il est trop marrant, quoi. Et sinon, demain soir, à 20h45, les 3 derniers épisodes de la saison 1, du 6 au 8, c'est-à-dire Magie Noire, Orage et Désespoir, et Père et Impère. Sinon, eh bien, mardi prochain, en prime time sur Fox Life, eh bien, on aura droit aux 3 premiers épisodes de la saison 2, avec Reviens-moi, Une mère exemplaire, L'argent fait le bonheur des autres. Et la rediffusion de des épisodes de la saison 2 se fera vendredi prochain à partir de 22h20. Alors je peux vous raconter un petit peu ce qui se passe lors du dernier épisode, c'est-à-dire c'est marrant, hein, parce que bon, c'est vachement bien foutu quand même. Le premier épisode commence avec l'événement majeur, c'est-à-dire la mort du mari de Wilhelmine dans la piscine, et bon, ce qui va s'en suivre un petit peu, hein. Parce que bon, Claire va se rendre compte que son mari, en fait, l'a délaissé un petit peu, a craqué tout le pognon, a dépensé tout l'argent qu'ils avaient. Claire est avocate, donc gagne quand même bien sa vie. Mais bon, bah ok, elle se retrouve ruinée, presque obligée de vendre la maison. Et pourquoi ? Parce que bon, il avait un amant, pas une amante, un amant. Oh là là, oh là là. Et il y a également la mort, donc au début dans la piscine, et l'image finale de la fin de la saison, en fait, hein, c'est Claire qui se fait assommer à coups de batte de baseball et qui tombe dans une piscine. Donc c'est la dernière image qu'on a de la saison 1 de cette excellente série, hein, vraiment un jardin secret. Il y a peu de chance, hein, qu'on puisse voir ce genre de série, hein, ou une série traité de la même façon sur une chaîne française, hein, du moins par des Français, quoi. Ça, il n'y a pas de problème. Hein. Il y a les Hollandais qui n'ont aucun, pratiquement aucune pudeur, on va dire, hein, qui vont à fond les manettes et tout. Hein. Ça écrase des chiens, ça taille des pipes. Les scènes de sexe sont bien suggérées, on va dire. Hein. C'est pas mal, c'est assez chaud quand même. Et bon, il n'y a vraiment pas de langue de bois, quoi. C'est ça qui est très très intéressant dans cette série. Et avec un humour qui vraiment vous fait pisser dessus de rire, quoi. Mais plus d'une fois pendant chaque épisode, ça sans problème. Hein. Donc c'est Jardin Secret, c'est sur Fox Life mardi prochain à partir de 20h45 pour le début de la saison 2, où on apprend que en fait Claire n'est pas morte, elle est dans le coma. Et on s'est dit ouais quand même, quoi, parce que bon, il y en avait que 4 des nanas, là s'il n'y en a plus que 3, là ça le fait pas. Non, elle revient, rassurez-vous.
Ouf. Et c'est fini du coup ?
Ah bah ouais, ça suffira. Hein.
Parce qu'il est 13h35 et...
Oh merde !
Et oui. Non, c'est pas le mur. Penses-tu, Thomas ? C'était donc l'émission numéro 122 du supplément week-end, le retour d'été et le warm-up de la saison 4. Optimus Prime, peux-tu nous faire s'il te plaît le résumé pour ceux qui ont pris l'émission en cours de route ?
Eh bien, les gens ont raté beaucoup de choses car il y a eu un plantage de l'ordinateur, un quiz Heroes, un quiz série télé, un top 5 die-hard, de la BD avec des cigares, de la fille à poil, des cadeaux d'anniversaire, la visite de Kinou, des blockbusters estivaux, un nouveau soap hollandais trash. Il a été temps pour quelqu'un que cela cesse, et 35 minutes de débordement.
Nom d'un... ils ont... Oui, Boot. Ils ont manqué tout ça, heureusement, ils peuvent réécouter l'intégralité de cette émission avec les chroniques écrites, mais aussi vos commentaires, n'hésitez pas, puisqu'on ouvre désormais la rubrique de l'audi spectateur et de l'audi lecteur, donc n'hésitez pas, vous allez sur le site internet de la radio, www.radio-fmr.net, vous allez dans la rubrique partie supplément week-end, le site a été rénové, vous pouvez réécouter cette émission et toutes les précédentes, mais aussi vous pouvez nous poser vos questions.
Tout ce que vous avez toujours jamais osé demander.
Enfin, de toute façon, même pas osé imaginer poser comme question, vous pouvez y aller, une équipe de spécialistes est là pour vous répondre, et je vous promets, ça a déjà commencé. C'est vous dire si franchement cette rubrique était attendue. Allez, on va dire que c'est à noter la saison 4. À la suite des programmes sur Radio FMR, et ça c'est.
Et bien après, ça c'est du sport.
Et voilà, et puis la suite, on ne sait pas.
Mais on sait à partir de 20h.
Non, même pas. C'est le programme de jeudi dernier. Voilà. Bon. Donc voilà, see you, ciao, bye bye. C'était l'émission numéro 122. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, même punition. Ciao, bye, see you.
Le plus important, c'est de faire passer des sentiments, faire passer quelque chose. Et...